Des analyses sur le monde sans frontières. Savoir et comprendre l'international. Guillaume Lavoie.
Poutine mobilise 300 000 soldats. Certains parlent d'un aveu d'échec. Lui, il parle d'une de la capacité d'utiliser tout ce qu'il y a comme arsenal. On en déduit l'arme nucléaire. Guillaume Lavoie, est-ce que c'est un bluff de Poutine ou est-ce qu'on devrait avoir peur?
Bonjour Yasmine. C'est à la fois décourageant, un peu inquiétant, quelque peu angoissant. Mais il y a quelque chose de profondément déroutant dans tout ça. Là. Comment un leader, un pays qui faisait partie du G8 jusqu'à récemment, peut se fourvoyer à ce point? Et c'est quand même extraordinaire. Là. Pour quelque chose, je le rappelle, il n'y a pas de guerre, là. Ça n'existe pas. Il y a une opération militaire spéciale. Ce qu'elle a de très spécial, c'est qu'elle est un échec monumental là, pour l'instant. Au point où Vladimir Poutine a dû dire je vais mobiliser 300 000 réservistes. Alors, c'est quand même pas rien. Là, juste pour vous donner une ordre de proportion, l'armée russe, avec des soldats en uniforme, enrôlés, l'armée normale, si on veut, c'est 1,5 million d'hommes. Alors, c'est comme si je mobilisais 13 % de plus.
C'est
quand
beaucoup.
Même majeur. Là. C'est énorme. Et c'est comme la cinquième une série de stratégies pour essayer d'augmenter la main-d'œuvre. Alors, stratégie 1, c'était, je vais essayer d'augmenter en amenant plus de gens, en disant les conscrits. Ça, c'est ceux qui font leur service militaire. Ceux à qui on dit, vous faites votre service militaire, mais vous irez jamais en situation de combat, c'est ce qu'on dit à leur mère. Ben non, ils se retrouvent sur le front ukrainien. Ça marche pas, j'ai pas assez de monde. Je recrute en multipliant par 3 le salaire que j'offre, 3 fois le salaire moyen. Des primes aux familles. J'offre aux prisonniers, je peux baisser ta sentence en échange que tu habilles en hiver et que tu ailles sur le front. Ça marche pas. Autre stratégie, j'avais dit il y a semaine que tu étais engagé pour 3 mois sur le front ukrainien. Une fois que tu es sur le front, je te dis, sais-tu quoi?
Tu peux pas revenir.
Long, finalement. Et là, on est rendu à presque le seul pas avant de mobilisation générale. C'est quand même majeur, c'est 300 000 personnes. Et c'est quoi un peu l'impact sur le front? C'est-à-dire, ceux qui sont les Russes comme les Ukrainiens, là, sur le front, comment ils vivent ça? Est-ce qu'il y a des inquiétudes particulières? Du côté de l'Ukraine, je vous dirais que c'est pas certain qu'ils sont si inquiets que ça. D'abord, il y a une consécration que si ça allait... C'est clair que ça va bien leurs affaires, parce que si ça allait bien pour les Russes, ils seraient pas en train de dire « j'ai besoin de 300 000 soldats de plus ». En plus, les 300 000 soldats, ils sont pas dans un avion au-dessus de l'Ukraine sur le bord de se faire parachuter, là. Ça pourrait prendre des mois avant qu'on puisse les extirper de leur vie civile, de les réentraîner, de les déployer, de les armer de nouveau. Ils sont pas rendus, là. Et en plus, tous les problèmes de l'armée russe sont d'être capable de déplacer des troupes. Vous savez, la logistique, là. C'est dans une guerre que ça compte. Il faut être capable de les armer. Avec quelle arme? Ils vont se promener avec quel char d'assaut? Eux qu'ils ont laissé presque flambant neuf sur le front en se sauvant. Alors, c'est une armée maintenant qui est mal commandée, mal équipée, mal déployée. Alors, plus de soldats là-dedans, ça fait pas nécessairement une bonne chose. Mais pour arriver à les rendre sur le front parfaitement opérationnels, on parle de jusqu'à 4 à 6 mois. Alors, vous voyez qu'on a le temps de faire passer l'hiver comme il faut, là. Et les problèmes sont pas réglés. Mais regardez du côté russe, il y a aussi des inquiétudes. D'abord, une conscription totale ou partielle, c'est rarement populaire.
Ah, il n'y a personne qui aime ça. Populaire. Mais là, on commence à voir, ça commence à se fragmenter, là, l'appui.
Officiellement, moi, je serais plus inquiet des mères russes qui voient leurs enfants peut-être se faire mobiliser. Ça change un peu la chose. Les soldats russes qui ont le moral dans les talons se disent « Wow, pour me sortir de mon pétrin, on va m'envoyer un paquet de recrues mal entraînées, pas nécessairement mieux équipées.
Qui veulent pas être là.
Ils prennent pas comme un vote de confiance, là. Et à la fin, ce que je vous dirais, ce qui est le plus inquiétant, c'est le discours du président Poutine. Qui dit, comme si de rien n'était, vous savez, on pourrait utiliser toutes sortes d'armes. Tout le monde comprend ici qu'on parle soit de l'arme nucléaire, soit des armes bactériologiques ou chimiques. Et là, est-ce que ça arriverait par accident ou un faux accident? Alors là, ça devient plus inquiétant parce que la seule manière de gagner une guerre nucléaire, c'est de ne pas la mener.
Absolument.
On voit que le problème avec Vladimir Poutine, c'est qu'il n'y a pas de voie de sortie. Il n'y a pas de plan de retraite pour un dictateur comme il l'est. Le seul plan, c'est de se faire zigouiller ou de mourir dans sa chaise. Alors, on en est rendu presque à espérer seulement qu'on pourrait avoir un peu que les choses se calment pendant l'hiver. Mais le plus inquiétant pour moi, c'est que Vladimir Poutine a toujours dit qu'il pourrait utiliser l'arme nucléaire, pas seulement dans le discours d'hier, pour défendre si le territoire russe était menacé. Là, la grande question, c'est
qu'est-ce qu'il considère? C'est quoi les frontières du territoire russe, lui, qui veut mener des référendums fantoches?
Est-ce que c'est la Russie de base? Est-ce que c'est le Donbass, les républiques indépendantes qu'il a annexées à la Russie? Est-ce que c'est la Crimée qu'il a annexée au territoire russe il y a déjà 8 ans de ça? Parce que pour les Ukrainiens, il n'y a pas question de laisser aller ça du tout, là. Alors, elle est où la ligne rouge, sans faux jeu de mots? Et ça devient un enjeu, mais plus il parle de l'arme nucléaire avec une certaine légèreté, plus ses alliés, l'Inde et la Chine, qui ont aussi des puissances nucléaires, vont être de plus en plus nerveux. Quand vous avez un ami qui commence à déraper, c'est un peu plus difficile d'étendre votre solidarité. Alors, moi, je reste dubitatif sur une utilisation potentielle, mais dès qu'il y a du nucléaire dans le décor, il est impensable de se dire qu'on est au risque zéro, ne serait-ce que l'accident. Alors, on continue à suivre ça.
Guillaume, la réaction de la Chine hier marquait quand même un tournant dans ce conflit-là où elle prenait plus de distance.
Oui, et quand la Chine dit on a des inquiétudes,
qu'on réclame un cessez-le-feu.
Quand on demande un cessez-le-feu, on est loin de peut-être que l'amitié ultime ou l'amitié limitée, c'est d'être capable de dire la vérité à son ami. Mais si vous et moi, on en entend parler, c'est parce que tous ces messages-là, en privé, n'ont pas passé. La Chine veut laisser savoir au reste du monde qu'elle n'est pas l'allié engagé pleinement derrière Vladimir Poutine. Et ça, c'est la preuve que si Vladimir Poutine était très isolé face au front de l'Ouest, face à l'Occident, il l'est de plus en plus même dans son groupe à lui. Et ça, c'est peut-être la nouvelle la plus désarçonnante pour Vladimir Poutine dans tout ça.
Il y avait aussi ces rumeurs-là qui disaient que la Corée du Nord pouvait dépêcher quelques soldats pour venir en aide à travers le train là, de la Transsibérie jusqu'à l'ouest de la Russie, finalement, pour donner un coup de main à l'armée russe. Est-ce que c'est plausible? Ouais. Est-ce que la Chine permettrait de faire ça?
D'abord, tu fais très bien de le mentionner, Yasmine, qu'il n'y a rien qui se passe en Corée du Nord sans que la Chine soit d'accord ou pas d'accord. À la fin, la Corée du Nord, c'est un pays qui a de la misère à se nourrir. Ils sont bien bons pour faire des défilés, mais je pense pas que ce soit une force militaire parfaitement entraînée. Imaginez, si on se rend compte à l'usage que l'armée russe est mal équipée, mal dirigée, imaginez l'état de l'armée nord-coréenne pour déployer un contingent suffisamment important. Pour chaque soldat au front, ça en prend plusieurs derrière pour l'alimenter, gérer la logistique. Alors, il est possible que la Corée du Nord possède des armes de destruction massive, mais de là à penser que c'est une force conventionnelle qui pourrait se déployer et changer l'ordonnation du conflit, je pense qu'on est plus dans l'ordre des Nord-Coréens ou du dictateur nord-coréen qui se fait désaccroire, là.
Ça risque d'être tout un conflit, tout un sujet qu'il va falloir surveiller parce que s'il nous dit que c'est pas du bluff, la menace, si elle est réelle, ça devient une guerre contre l'Occident et qui dit guerre contre l'Occident dit que le Canada, les États-Unis et tous nos alliés, ils devront y prendre part et rien pour nous rassurer. Sinon, parlons des États-Unis, Trump qui est mis en accusation. Est-ce que ça va vraiment coller, cette affaire-là, Guillaume? Parce qu'on dirait que j'y crois plus, là, tu sais, toutes les accusations qu'il y a contre Trump, toutes les allégations qu'il y a contre lui, il me semble qu'il est fait en téflon, pareil.
Oui, il est vraiment fait en téflon, mais là, il vient de se faire donner un gros chandail fait en velcro. Parce que ça fait quand même 2 ans que l'équivalent du ministère de la Justice de l'État de New York prépare son dossier. Et les accusations déposées sont au civil, donc le fardeau de la preuve est plus bas, peut-être pas contre tout doute raisonnable, ici c'est la preuve prépondérante, et il se fait accuser de choses qui sont profondément humiliantes pour lui, c'est-à-dire de faire croire qu'il y a de l'argent qu'il n'y a pas, juste parce que ça a l'air mieux. Là. C'est un peu comme si vous voulez avoir l'air plus important que vous êtes à votre club de golf. Puis là, vous dites, savez-vous quoi? Bon, je vais dire que ma voiture vaut 300 000, vu que j'avais 200 000 l'an dernier. Je vais vous donner un exemple qui montre un peu, je dirais, le côté égomaniaque là, de la chose. Il aurait déclaré que son penthouse à New York est 20 000 pieds carrés plus grand que ce qu'il est en réalité.
Wow, OK.
Imaginez la grosseur de vos apparts là, ou de vos maisons. Se tromper de 20 000 pieds carrés, là, c'est assez spécial. Là. Et là, il s'expose à des peines. C'est pas juste lui qui est mis en accusation, c'est tous les membres de la famille qui sont propriétaires ou dirigeants de l'organisation de Trump. Mais il pourrait être condamné à payer des millions de dollars, voire des centaines de millions de dollars, pour avoir fraudé. Et je le rappelle, fraudé l'impôt, c'est avec ça qu'on a réussi à mettre Al Capone en prison. C'est très grave. Et c'est juste le début, parce que tout ce qui relève du criminel, donc des peines de prison, la tournée générale de New York a envoyé ça au fédéral, et là, c'est dans les mains de l'équivalent de Revenu Canada. C'est pas des gens qui entendent à rire beaucoup, là. Alors, ça ne fait que s'ajouter. Nouvelle cocasse, même depuis une cellule de prison, il pourrait être candidat à la présidence et théoriquement être élu, parce que la Constitution ne fait que dire qu'il y a deux conditions. Il faut que tu aies 35 ans et que tu sois né aux États-Unis. Aucune autre loi, à moins de modifier la Constitution, peut venir restreindre ce droit-là. Mais je pense que la grande question, c'est est-ce que ça va nuire à sa candidature? Peut-être. Mais d'un autre côté, ça permet à Trump de jouer ce rôle de victime. Parce qu'à la fin, la ministre de la Justice, c'est une démocrate. Elle n'a pas Trump dans son cœur nécessairement. Et s'il se porte candidat, il pourra littéralement être dans son plein rôle. Alors peut-être que toutes ces poursuites-là vont le forcer à être candidat. Et là, il va devoir se regarder dans le miroir, faire semblant de garder son image de gagnant ou poursuivre jusqu'à la fin. Peut-être que pour des raisons très différentes, pour lui non plus, l'autre étant son ami Poutine, il n'y a pas vraiment de plan de sortie élégant dans tout ça.
C'est à suivre. Trump n'a pas fini de faire l'actualité et d'alimenter nos discussions. Guillaume Lavoie, merci beaucoup. On se retrouve demain.
Au plaisir.